France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment les aspirateurs s'y prennent-ils pour aspirer ? À force d'écouter la conversation scientifique, vous savez tous que quatre interactions fondamentales ont été identifiées par les physiciens. La gravitation d'abord, mathématiquement formalisée par Newton au XVIIe siècle, et complètement repensée par Einstein au début du XXe. L'interaction électromagnétique, formalisée par Maxwell au XIXe siècle. Enfin, les deux interactions nucléaires, découvertes dans les années 1930. L'une, dite faible, de portée ultra courte, est capable de changer la nature d'une particule, par exemple de transformer un neutron en proton par radioactivité bêta. Elle ne se manifeste guère dans notre vie de tous les jours, mais c'est grâce à elle que le soleil brille. L'autre, dite forte, agit comme une colle puissante qui lie fortement les protons et les neutrons au sein des noyaux d'atomes. Elle ne produit aucun effet qui soit observable à l'échelle macroscopique. Ceci étant posé, interrogeons-nous sur les aspirateurs, juste pour le plaisir de comprendre. Voici le contexte. Des miettes de pain jonchent le sol de ma cuisine, ça arrive. Je me saisis de mon aspirateur, je le branche, j'appuie sur le bouton marche et je vois aussitôt les miettes se précipiter à l'intérieur du tuyau de l'aspirateur. Quelle force les a ainsi propulsées à grande vitesse ? Ce n'est pas la gravitation, qui aurait plutôt tendance à les clouer au sol. Ce n'est pas non plus la force électromagnétique. L'aspirateur n'est pas un aimant et les miettes de pain ne sont pas métalliques. Ce ne sont pas non plus les forces nucléaires qui n'agissent qu'à des échelles de distance bien plus petites. Mais alors, les miettes de pain, qu'est-ce qui les pousse ou les tire jusqu'au sac de l'aspirateur ? Quelle force agit là à distance ? Au demeurant, a-t-on raison de dire que les aspirateurs aspirent les poussières ? Une force d'aspiration, est-ce que ça existe vraiment ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Michael Launay. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes mathématicien et vous venez de publier un livre passionnant qui s'intitule « L'équation de la chauve-souris » et qui est paru aux éditions Hugo au mois d'octobre dernier. Alors je l'ai dit, Michael Launay, vous êtes mathématicien. Les mathématiciens, en général, ça aime l'abstraction, les belles équations, les raisonnements subtils. Mais vous, ce qui vous fascine depuis longtemps, entre autres choses, c'est votre aspirateur. Est-ce que vous faites souvent le ménage ou est-ce que vous réfléchissez à ce que font ceux qui font le ménage ?
Je le fais en y réfléchissant et effectivement, ce qui m'intrigue beaucoup, ce qui me motive, c'est des fois de voir à quel point dans la vie de tous les jours, il y a des choses qui nous paraissent évidentes, auxquelles on pense même pas, auxquelles on prend même pas le temps de réfléchir. Et puis il y a un jour où on regarde, on est en train de passer l'aspirateur et puis on se dit, mais au fait, comment ça marche ? Pourquoi je me suis jamais posé la question ? Ça paraît tellement anodin. Qu'est-ce qui aspire ? Qu'est-ce qui fait que ces miettes vont venir à l'intérieur de ce tuyau ? Et là, c'est le début d'une réflexion. Alors, on commence à assembler des pièces et puis petit à petit, il y a quelque chose qui se met en place et ça nous amène très loin, ça nous amène à comprendre des choses fondamentales.
Mais par exemple, on peut s'imaginer faire le vide dans une pièce. On branche l'aspirateur, ça marche. Il y a une miette qui est là, mais elle n'est plus aspirée.
Non.
Donc on peut en déduire qu'il faut de l'air déjà.
C'est ça. Pour aspirer, il faut un complice, il faut l'air. On ne peut pas faire le ménage sur la Lune, par exemple. Enfin, pas avec un aspirateur. En tout cas, on peut passer le balai, mais on peut pas passer l'aspirateur dans un endroit vide.
Alors, vous racontez des choses absolument passionnantes sur cette histoire. Et vous dites, il va falloir l'expliquer, vous avez le temps pour le faire, qu'un aspirateur, c'est une machine aléatoire. Et que allumer un aspirateur, c'est prendre le risque qu'il ne marche pas, en tout cas qu'il n'aspire pas.
C'est ça. Il y a quelque chose d'aléatoire. Il y a des probabilités qui interviennent derrière. Et effectivement, il y a une forme d'incertitude derrière le fonctionnement d'un aspirateur, et en fait, qui est inhérent à l'incertitude qu'il y a sur la façon dont l'atmosphère dans laquelle on baigne en permanence fonctionne.
Mais admettons que je m'appelle Aristote. Faisons une expérience de pensée, je suis Aristote. Je vois un aspirateur qui fonctionne. La miette, comme je l'ai dit, est avalée par le tube. Moi, Aristote, je pense que la nature a horreur du vide. Elle a un sentiment d'horreur pour le vide. Elle a une passion négative pour le vide. Ben, je me dis, c'est simple. L'aspirateur aspire l'air, il fait donc le vide près de lui, et comme la nature a horreur du vide, elle demande gentiment, au début gentiment, puis si ça se passe pas, elle s'énerve, elle demande à la miette de pain de se précipiter dans le vide pour empêcher que le vide se manifeste. Et finalement, l'horreur que la nature a pour le vide, c'est une sorte d'antidépresseur. C'est-à-dire, dès qu'il y a dépression, dès qu'il y a une dépression, ben, la nature réagit pour combler cette dépression en apportant de la matière liquide, solide ou gazeuse.
C'est ça, et c'est une explication qui, en première approximation, si on ne fait pas des expériences très pointues, fonctionne assez bien, qu'on expérimente tous les jours. Quand on boit une boisson, un jus d'orange à la paille, on crée du vide un peu à l'intérieur de la paille en aspirant, et du coup, bah, le jus d'orange qui est au fond du verre, eh ben, il va remonter parce qu'il ne tolère pas plus que n'importe quelle autre matière dans l'univers, qu'il y ait du vide qui se crée. Alors donc, il vient combler ce vide.
Mais comment est-ce qu'on a découvert que c'était complètement faux ?
Eh bien, ça apparaît à peu près. Alors, il y a toujours des signes précurseurs, il n'y a jamais une date très précise, mais il se passe vraiment quelque chose d'important dans les années 1630, où on a, alors, selon la façon dont le récit est raconté, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais on a les fontainiers de la ville de Florence, qui ont été chargés par l'archiduc de Florence de construire des fontaines, de bâtir des fontaines dans les jardins de son nouveau palais. Et ils sont confrontés à un problème. Donc ils utilisent des pistons qui vont aspirer, fonctionnent un peu comme des seringues géantes, c'est-à-dire qu'on plonge un tuyau dans une nappe d'eau qui est en contrebas, et puis il y a un piston à l'intérieur qu'on va remonter. Et donc, pense-t-on à l'époque, en remontant, le piston a envie de créer du vide, mais comme l'eau qui est en dessous n'a pas envie que ce vide se crée, elle va remonter et on va faire remonter l'eau comme ça le long du piston. Seulement, avec cette méthode, ils n'arrivent pas à dépasser une certaine limite. Ils constatent ça. L'eau ne monte jamais plus haut que 10 mètres.
C'est l'eau qui pompe dans le fleuve de Florence, qui est l'Arno.
Oui, dans l'Arno, oui, c'est ça. Et alors, 10 mètres, même un peu plus, il y a vraiment une valeur précise, 10 mètres 30. Alors, ça peut varier un peu selon l'expérience. C'est ça, 18 coudées, comme c'est raconté ensuite dans Galilée, qui va intervenir parce qu'il est appelé.
Il est appelé pas au téléphone, on lui envoie une lettre.
C'est ça, voilà, il se manifeste. Alors, on ne sait pas trop s'il s'est vraiment rendu sur place ou s'il y a réfléchi de chez lui. On voit il y a des images d'époque.
Moi, ce que j'ai lu, c'est
que
la lettre lui a été lue par son assistant, Torricelli. Et Galilée a commenté ce qu'il avait compris de cette lettre.
C'est ça. Et donc, là, à ce moment-là, alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que la première hypothèse à laquelle on peut penser, c'est est-ce que le système est défectueux ? Est-ce qu'il y a un problème physique ? Est-ce qu'il y a une fuite dans le piston ? Mais vraiment, au bout d'un moment, les fontainiers se rendent compte qu'il y a quelque chose de fondamental, qu'en fait, ils sont face à une loi de la physique, quelque chose qui n'est pas seulement dû à la mise en place expérimentale, disons. Ce 10 mètres 30, c'est une loi de la nature. Et Galilée va écrire dans un de ses textes sur ce problème-là. Et il va avoir une réponse qui est assez décevante, finalement. Il va simplement dire, oui, d'accord, la nature a horreur du vide, mais cette horreur a des limites. Et la limite, grosso modo, se trouve à 10 mètres 30, à 18 coudées. Donc, d'une certaine manière, on peut mesurer, Galilée nous dit, on peut mesurer la force de l'horreur du vide, et ça correspond au poids.
Mais il parle aussi de la pesanteur de l'air.
Alors, non, il en parle, mais il ne va pas faire directement le lien. Alors, on ne sait pas exactement, est-ce qu'il a eu l'idée, mais il avait déjà des soucis à cette époque-là, un peu. Donc,
oui. Il était condamné à rester en résidence tout près de Florence.
C'est ça. C'était pas forcément le moment pour lui de faire des remous et d'à nouveau contredire Aristote. Donc peut-être qu'effectivement, il est allé plus loin dans ses réflexions que ce qu'il a pu écrire. Mais toujours est-il qu'il ne va pas formuler explicitement le fait que l'horreur du vide, finalement, est obsolète, doit être jetée comme principe fondamental de la nature, et que c'est au contraire la pression atmosphérique qui va intervenir pour pousser l'eau et pour la faire remonter à l'intérieur du piston.
Donc, ce qui fait monter le jus d'orange dans la paille ou bien l'eau dans les pompes des fontaines de Florence, c'est la pesanteur de l'air. C'est une force qui va du haut vers le bas et qui fait monter le liquide du bas vers le haut.
C'est ça, en fait, qui appuie. Alors, la pesanteur, elle a pas vraiment une direction. Elle va pas du haut vers le bas ou du bas vers le haut. En fait, elle appuie dans toutes les directions en même temps. C'est vraiment, on est compressé par l'air en permanence dans toutes les directions dès lors qu'on est plongé dans cette atmosphère. Et donc, l'eau va effectivement appuyer sur la surface horizontale de l'eau, plutôt du haut vers le bas. Et puis, en appuyant sur cette eau, l'eau qui est fluide va transmettre cette force qui va remonter le long du piston pour faire remonter l'eau. Et ça, vraiment, la formalisation, vraiment, pour le coup, bien comprise de ce principe-là, c'est un élève de Galilée, c'est Torricelli, qui va le prouver expérimentalement quelques années plus tard, dans les années 1640, en faisant une expérience similaire à celle des fontaines, mais avec du mercure, parce que c'est pas facile dans un laboratoire de faire une colonne de 10 mètres d'eau. Alors, le mercure a l'avantage d'être beaucoup plus dense que l'eau. Et donc, faire remonter une colonne de mercure, ça fait 70 cm et quelques, c'est plus raisonnable. Et donc, il va prendre un tube, il va remplir son tube de mercure, il le remplit complètement, puis il bouche l'extrémité du tube, il le retourne, il le plonge dans un bac rempli de mercure à son tour. Et là, il va enlever...
100 mètres de gants.
100 mètres de gants, oui. Ça, à l'époque, on n'avait pas encore toutes les informations. Et il débouche le tube, et là, il voit que le niveau de mercure dans le tube va baisser, et on va avoir une cavité de vide qui va se former en haut du tube, qui là ne peut être que du vide, parce que rien d'autre n'a pu rentrer, et que c'est constant, c'est-à-dire qu'on est toujours à 70 et quelques centimètres. Alors, ce n'est pas tout à fait constant, ça dépend un peu des jours.
Il mesure 76 centimètres pour la colonne de mercure, oui. Et 76 centimètres, c'est 10 mètres divisé par 13,6. 13,6, c'est la densité du mercure. Donc, ce qu'il comprend, c'est que la pesanteur de l'air peut faire monter de l'eau sur 10 mètres et du mercure sur 76 centimètres, modulo les fluctuations de la météo qui changent la pression en question. Mais il a trouvé là l'explication qui est inverse de celle proposée par Aristote.
C'est ça. Finalement, c'est pas quelque chose qui attire le mercure ou l'eau, c'est quelque chose qui pousse de l'autre côté. On a changé de point de vue complètement pour trouver une explication qui est satisfaisante et qui, pour le coup, permet de répondre à toutes les variations d'expérience qu'on peut faire.
Donc la nature n'a pas horreur du vide, mais la pression est tellement forte qu'il est difficile de le créer dans une enceinte donnée.
C'est ça. Dès qu'on essaye de créer du vide, la pression va appuyer autour pour que ce vide se...
Mais Michael Honnès, ça répond toujours pas à la question de l'aspirateur.
Non, parce que l'aspirateur, où est-ce qu'on crée du vide dans l'aspirateur? Alors déjà, le vide n'a pas forcément besoin d'être absolu, il suffit d'avoir un peu moins d'air à un endroit pour que la pression autour puisse agir. Et en fait, pour bien comprendre l'aspirateur, je crois qu'à ce moment-là, il faut comprendre comment fonctionne vraiment l'atmosphère, comment il est composé. Et en fait, l'atmosphère, il est composé de plein de petites particules, de plein de petites molécules d'air, alors principalement des molécules d'azote, des molécules d'oxygène, disons trois quarts, un quart, et puis quelques poussières d'autres choses, et qui se déplacent dans tous les sens. Et on ne se rend pas compte, forcément, c'est que c'est quelque chose d'assez contre-intuitif quand on évolue dans cette atmosphère qui a l'air très calme. Quand on a un verre qui n'est pas rempli d'eau à côté de soi, on a tendance à dire que le verre est vide. En fait, il n'est pas vide, il y a de l'air dedans, et on parle de vide dans le langage courant, pour désigner l'air, alors qu'en fait, c'est vraiment un tumulte, c'est très vivant.
Très agité.
C'est très agité, voilà, c'est cette atmosphère qui nous entoure, avec des particules qui se déplacent dans tous les sens à une vitesse phénoménale dont on n'a pas conscience. Les particules vont se déplacer en moyenne à 1600 km/h, 1700 km/h autour de ça. Alors, ça dépend de la température, ça dépend de différents paramètres, mais on a ces particules autour de nous qui se déplacent à une vitesse phénoménale en permanence. Et si on a cette impression de calme, c'est parce que le calme n'est que moyen. C'est un calme statistique. C'est-à-dire qu'il va y avoir à peu près autant de particules qui vont se déplacer très vite vers la gauche que vers la droite, vers le haut que vers le bas. Et en moyenne, eh bien, ça va créer cette illusion qu'il ne se passe pas grand-chose autour de nous. Mais en réalité, ça bouge à toute vitesse.
Mais parfois, Michael Honnès, il y a du vent.
Oui, parfois il y a du vent. Et alors ça, justement, c'est quelque chose, c'est une illusion. Enfin, c'est une illusion, c'est pas une illusion, le vent existe vraiment. Mais quand on se dit qui a un vent de 100 km/h, ça paraît déjà, ça souffle fort. Alors que les particules de l'air, même quand il n'y a pas de vent, se déplacent déjà à 1600 km/h. Alors comment se crée ce vent ? Eh bien, ce vent, c'est juste une sorte de déséquilibre statistique. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, si on prend un état de l'air qui est calme, où ça se déplace à 1600 km/h, mais à peu près de manière équilibrée dans tous les sens, autant vers la gauche que vers la droite, eh bien, quand il va y avoir du vent, disons qu'au lieu d'être à 1600 km/h, ceux qui vont vers la droite, ils vont être à 1700. Puis ceux qui sont vers la gauche, ils vont être qu'à 1500 vers la gauche. Et en fait, statistiquement, si on regarde tous les vecteurs vitesse, toutes les vitesses de chaque particule individuellement et qu'on fait une moyenne, eh bien, on se rend compte qu'en moyenne, globalement, eh bien, elles vont à 100 km/h dans une direction. Mais si on va au niveau microscopique et qu'on les observe vraiment individuellement en train de se déplacer, c'est très difficile de faire la différence entre un grand vent et un calme absolu.
Mais si je suis une molécule d'air, par exemple, d'azote ou d'oxygène, est-ce que je peux me rendre compte, de mon point de vue, s'il y a du vent ou pas ?
Alors, il faut avoir quelques notions de statistiques. Alors, dans ce cas-là, il faut faire des calculs. Il faut, juste en étant une molécule à un instant donné, qui a une certaine vitesse et qui se regarde bouger toute seule, il n'y a aucun moyen de savoir si on est dans un vent ou si on n'est pas dans un vent. Par contre, si on a un petit peu de temps et qu'on commence à s'entrechoquer avec d'autres molécules et puis qu'on se dit, bon, ben là, ça fait un petit moment que je fais des chocs un peu dans tous les sens et en moyenne, je me suis déplacé un peu plus vers la droite que j'aurais dû statistiquement, alors là, je peux commencer à me dire, je suis dans une atmosphère qui est venteuse.
Autrement dit, seules des molécules qui ont fait un peu de maths et de physique sont capables de dire qu'il y a du vent.
Exactement. Alors même que c'est elles qui le font.
Alors, est-ce que ça nous approche un peu de la solution du problème de l'aspirateur, ce que vous venez de dire, Michael Launay ?
Alors, effectivement, quand on comprend cette agitation permanente, on se dit... Alors déjà, cette agitation permanente, c'est aussi elle qui est responsable de la pression. C'est-à-dire que si on a cette pression atmosphérique qui s'exerce sur tous les corps plongés dans l'atmosphère en permanence, c'est parce qu'on est bombardé en permanence par toutes ces molécules qui viennent frapper toutes les surfaces autour de nous. C'est ces molécules qui vont venir frapper la surface de l'eau dans un fleuve et qui vont faire remonter ensuite le long du piston. Et donc cette pression-là, elle est à peu près constante dans une atmosphère calme, mais il peut y avoir des dépressions qui vont se former par-ci par-là, c'est-à-dire des déséquilibres statistiques, des endroits où il va y avoir un peu moins de molécules, ou alors où elles vont un peu moins vite, et où, ben, entre un endroit et un autre, eh bien, on va avoir des pressions plus fortes ou plus faibles. Et dans ce cas-là, eh bien, on a encore une fois parlé de probabilité tout à l'heure et de statistiques. Si on a une zone de l'atmosphère où il y a un petit peu moins de molécules qui se déplacent, qui sont en train de s'agiter, eh bien, il va y avoir statistiquement plus de molécules qui vont se déplacer vers cette zone que de molécules qui vont en sortir. Simplement parce que les particules de manière individuelle, elles se déplacent de façon totalement aléatoire, elles ne réfléchissent pas à ce qu'elles font, mais si vous en avez 1000 qui sont susceptibles d'aller vers la droite et seulement 100 qui vont aller vers la gauche, eh bien forcément entre les deux, à l'interface des deux, vous allez avoir un flux qui va aller plutôt dans un sens que dans l'autre. Et donc, on a cette déséquilibre de statistiques qui peut se créer. Et c'est effectivement ce qui va se passer dans un aspirateur. En fait, l'aspirateur, quand on met en marche l'hélice, qu'est-ce qui se passe ? Il va cogner certaines molécules d'air avec son hélice qui va se mettre à tourner. Il va expulser des molécules d'air qui vont partir dans le sens opposé, c'est-à-dire qui vont sortir à l'arrière de l'aspirateur.
Parce que les pales de l'hélice sont orientées.
Les pales de l'hélice sont orientées.
Donc on envoie des molécules d'air vers l'arrière, si on peut dire.
C'est ça. Si on est à l'arrière de l'aspirateur, eh bien on sent du vent qui vient vers nous. Ça fonctionne comme un ventilateur. Et donc, il y a des molécules qui sont d'un côté de l'hélice et qui vont être happées par l'hélice et projetées de l'autre côté. Mais parmi ces molécules-là, eh bien, il y en a certaines qui, si on n'avait pas fait ça, eh bien, par hasard, aurait remonté tout le tuyau et serait venu heurter la miette qui est au bout du tuyau. Et donc, d'une certaine manière, l'hélice, elle va créer un biais statistique. C'est-à-dire qu'au début, la miette, quand elle est sur le parquet et qu'il n'y a pas d'aspirateur, elle ne bouge pas, non pas parce qu'il n'y a aucune force qui s'exerce sur elle, mais parce que les forces sont équilibrées. Il y a autant de particules qui
viennent frapper. Elle est frappée de la même façon dans toutes les directions, à tous les endroits.
C'est ça. Et donc, ça se moyenne.
Et
elle reste immobile. Quand on met le tuyau de l'aspirateur juste devant la miette et qu'on met en route l'hélice, eh bien, l'hélice va venir kidnapper, en quelque sorte, des particules d'air qui, statistiquement, auraient dû venir taper la miette en remontant le long du tuyau. Et en kidnappant ces particules-là, eh bien, elles créent un déséquilibre. Et donc, finalement, ce n'est pas l'aspirateur qui va venir aspirer la miette. L'aspirateur, il va juste affaiblir une force qui pousse la miette dans la direction opposée.
Et si le tuyau est à droite, en fait, la miette, elle est poussée par la gauche.
C'est ça, la miette va être poussée par la pression atmosphérique classique qui vient de la gauche, qui, elle, ne va pas changer.
Donc, est-ce qu'on peut dire que l'aspirateur, il aspire quand même des molécules d'air, mais il n'aspire pas la miette?
C'est ça, la miette, c'est un effet secondaire. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'aspiration pour les molécules d'air, parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est des chocs. Voilà, c'est ça, il cogne les molécules d'air, et puis on a la pale qui est de l'hélice qui est orientée, qui va juste projeter en arrière des molécules.
Mais la conclusion est terrible, ça veut dire qu'un aspirateur n'aspire pas.
Non, un aspirateur n'aspire
vous dites,
pas.
Vous dites d'ailleurs, il n'aspire pas, il sabote la pression.
Oui.
Alors, comment il faudrait l'appeler? Quel nom vous proposez pour l'aspirateur? Parce que finalement, on parle comme si on avait donné raison à Aristote. On continue à parler comme si Aristote avait raison.
Oui, parce que dans le langage de tous les jours, c'est bien courant de parler comme ça. Quand on allume sur le bouton de l'aspirateur, on a l'impression qu'on fait quelque chose, on a l'impression qu'on agit, on a l'impression qu'on est maître de ce qu'on est en train de faire. Alors, je ne sais pas comment il faudrait appeler l'aspirateur, mais
saboteur de pression.
Un saboteur de pression, qui permet effectivement de donner la force à une pression qui était déjà existante dans l'autre sens.
Alors, Michael Launay, il y a de la pression donc dans l'atmosphère, il y en a aussi dans l'eau. La pression atmosphérique, ou plutôt la pression, elle augmente d'une quantité égale à la pression atmosphérique à chaque fois qu'on descend de 10 mètres sous l'eau. Et vous dites dans votre livre qu'il y a dans ce monde beaucoup d'injustices, mais il n'y en a guère qui soit pire que celle qu'a subie le 13 septembre 2013 un petit animal qui s'appelle le blobfish.
Oui.
Quelle est l'injustice terrible dont il a été victime?
Le blobfish, alors il y a une société de protection des animaux qui a organisé un concours de l'animal le plus moche du monde. Donc il y avait plusieurs concurrents d'animaux avec des photos et les participants devaient voter pour l'animal, alors le plus moche du monde. Alors l'intention au départ était louable, c'était justement pour attirer l'attention sur tous ces animaux qui peuvent être en danger, mais dont personne ne parle, parce que c'est vrai que souvent quand on parle de protection animale, on parle des pandas, on parle des animaux, des éléphants, des animaux très très emblématiques qui sont très mignons et que tout le monde connaît. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau d'animaux qui sont inconnus, dont on ne sait même pas qu'ils existent. Et donc c'était pour attirer l'attention là-dessus.
Il faut protéger tous les animaux, y compris les moches.
C'est ça, voilà. Il ne faut pas faire de discrimination de ce point de vue-là. Mais par contre, pour ce qui est du blobfish, effectivement, il a été élu animal le plus moche du monde sur les bases d'une photo qui a été prise après que le blobfish ait été remonté des abysses et remonté à la surface après avoir été pêché. Or, il se trouve que quand il vit dans ces abysses, il subit une pression incroyable de l'eau qui est autour de lui. Et donc, son corps est habitué à ça. Et en fait, son corps a été construit pour réagir à cette pression.
Et c'est un poisson très élégant.
Voilà, c'est un poisson qui est très élégant, qui ressemble à d'autres poissons, qui n'est pas plus moche que d'autres poissons quand il vit dans son habitat, dans ses abysses natales. Et par contre, en remontant, eh bien, la pression interne qui existe dans son corps, dans son organisme, qui est faite pour résister à la pression extérieure de l'eau, eh bien, va le faire gonfler, va le dilater et va lui donner effectivement une tête qui lui a valu ce titre et qui après a fait le tour du monde parce que ça, on en a fait des t-shirts, des pins, on l'a vu un peu partout sous cette forme-là et finalement. Peu de gens connaissent la vraie tête du blobfish, qui est sa véritable allure quand il est au fond de ses abysses. Mais voilà, et en fait, on est dans le même état. Nous, en vivant au fond de l'atmosphère, on subit également une pression de l'atmosphère, alors qu'il n'est pas la pression de l'eau, qui est bien moindre, mille fois moindre que celle que subit le blobfish dans l'océan, mais qui est quand même relativement importante. Et c'est pour ça aussi que nous-mêmes, nous ne survivrions pas dans le vide pour d'autres raisons. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on ne pourrait pas survivre dans le vide. Mais la pression de notre, que notre organisme exerce pour résister à la pression atmosphérique nous rendrait également tout boursouflé si on devait se retrouver dans le vide.
Michael Honneur, on a expliqué grâce à vous que un aspirateur n'aspire pas, en tout cas pas au sens propre du terme. Mais si je gonfle mes poumons, j'inspire de l'air. Est-ce que j'emploie une formule qui est exacte? Est-ce que je gonfle mes poumons ou est-ce que c'est l'air qui les gonfle?
C'est plutôt l'air qui les gonfle. C'est pas, en fait, dès qu'on commence à réfléchir à ces questions de mouvement d'air, d'aspiration et tout ça, on se rend compte qu'on ne fait pas grand-chose et qu'on ne fait qu'autoriser l'air qui a envie d'entrer.
D'ailleurs, j'ai aucune maîtrise sur mes poumons parce que ce ne sont pas des muscles.
Les poumons ne sont pas des muscles et ils ne sont même pas reliés à des muscles. Ils sont pris dans une sorte de sac qu'on appelle la plèvre. Et les muscles qui sont, donc il y a le diaphragme en dessous et les muscles du thorax qui sont autour, ne sont pas accrochés aux poumons. Et en fait, quand on inspire, on va juste écarter ces muscles qui ne vont absolument pas tirer les poumons avec eux, mais juste ils vont faire la place. Et l'air qui est dans nos narines et qui pousse de toute façon et qui a de toute façon très envie de rentrer dans nos poumons.
En permanence.
Voilà, en permanence. Va gonfler nos poumons de la même manière que...
C'est-à-dire que ce mouvement dont vous parlez va autoriser ces molécules qui sont au bord des narines d'entrer,
c'est
alors
ça.
Que d'habitude elles sont repoussées par des molécules d'air qui vont dans le sens inverse.
C'est ça, voilà, on a un déséquilibre qui va se créer, qui va faire que d'un seul coup, celles qui veulent entrer vont se retrouver plus nombreuses et vont pouvoir rentrer et gonfler.
Mais est-ce que ça veut dire que toutes nos façons de dire sont trompeuses finalement, ou sont héritières d'explications dont on sait aujourd'hui qu'elles sont fausses?
Oui, si on veut parler vraiment en décrivant les phénomènes tels qu'ils sont exactement, effectivement, tout notre langage autour de ces inspirations et expirations, tout ce qui est aspiration, tout ce qui relève de ce domaine-là, nous construit un imaginaire, une façon de penser les choses qui ne correspond pas à la réalité quand on l'étudie. Alors après, effectivement, c'est aussi bien pratique. Des fois, il faut, quand on est dans la vie de tous les jours, on se dit juste qu'on aspire et puis c'est plus pratique de le penser comme ça. Mais c'est bien d'avoir les deux visions, je trouve, c'est-à-dire d'utiliser un mot pratique dans une situation où on n'est pas forcément en train de penser à la science, mais en même temps de se dire qu'on comprend comment ça fonctionne si on veut aller un peu plus loin.
Ce qui est remarquable dans votre livre, Michael Honneur, c'est que parlant de ce problème d'aspirateur, vous arrivez à nous expliquer que les mathématiques, statistiques en l'occurrence, permettent de détecter des fraudes électorales. Et
oui.
Vous citez d'ailleurs une manifestation qui s'est déroulée, je ne sais plus quand.
C'était en Russie en 2012, je crois.
Oui, et les manifestants avaient écrit sur les pancartes « Nous ne croyons pas Tchourov, nous croyons Gauss ».
C'est ça, Gauss qui n'a rien à voir avec les élections russes, mais qui était ce mathématicien allemand qui a découvert, qui a donné son nom du moins à cette courbe gaussienne, cette courbe en cloche qui représente un très grand nombre de répartitions statistiques. Effectivement, si on regarde des données un peu aléatoires, ne serait-ce que par exemple dans une population, si on regarde la taille des individus, il y en a des plus petits, il y en a des plus grands, et puis il y a une moyenne. Et si on répartit ça sur un graphe, on va voir une espèce de courbe en cloche, en bosse, comme ça, où il n'y a pas trop de très petits, pas trop de très grands, et puis la majorité se trouve autour de la moyenne. Et c'est quelque chose, c'est une loi qui est vraiment très, très générale, qu'on retrouve dans
on l'appelle normale, d'ailleurs.
Qu'on appelle la loi normale, exactement. Et cette loi, elle se retrouve également dans les processus aléatoires. Si on lance une pièce de monnaie un certain nombre de fois et qu'on note combien de fois on a fait pile, alors on la lance 100 fois, on regarde combien de fois on a fait pile, on recommence, eh bien très souvent, on va tomber pas très loin de 50 piles et 50 faces. Et puis plus rarement, on va se retrouver à 40-60, et puis encore plus rarement à 30-70, et on a cette courbe qui va se former. Et c'est la même chose pour les élections, c'est-à-dire que si on prend une personne au hasard et qu'on lui dit à la prochaine élection que vas-tu voter, eh bien, disons que ce soit un sujet un peu clivant où c'est un peu à 50-50 dans la population, on a une chance sur deux pour qu'elle nous réponde je vais voter A ou je vais voter B. Mais si sur un village, on interroge 100 personnes, enfin sur une population, on interroge 100 personnes, eh bien, de temps en temps, le sondage va nous dire pas très loin de 50-50, puis de temps en temps, par hasard, si on, juste parce qu'on a interrogé que 100 personnes et qu'on n'a pas interrogé tout le monde dans la population, eh bien, on va tomber sur 40-60. Ça fait partie de l'incertitude du sondage et de l'échantillon qu'on a pris. Et donc, si on regarde sur une élection, par exemple, par bureau de vote, dans une élection où les gens sont à peu près partagés à 50-50, eh bien, normalement, on peut s'attendre à ce que le pourcentage de personnes qui ont voté A ou B par bureau de vote suivent cette courbe en cloche, c'est-à-dire que la plupart des bureaux de vote vont voter aux alentours de 50-50. Il y en aura certains où on pourra être à 45-55, un peu moins à 40-60, etc. Et il y en a très peu qui seront à 70-30 ou 80-20. Et si on regarde la courbe de ces élections, eh bien, on se rend compte qu'on a effectivement cette courbe en cloche au premier regard. Mais après la courbe en cloche, eh bien, on a une deuxième petite bosse qui arrive aux alentours de 90-100%, qui nous montre qu'il y a énormément de bureaux de vote.
On a bourré les urnes.
Où tout le monde était d'accord. Et ça, statistiquement, bah, c'est très peu probable. C'est même quasiment impossible. Et donc, pour les manifestants qui protestaient contre les résultats de ces élections ce jour-là, eh bien, les mathématiques et ces lois statistiques prouvaient la fraude qui avait eu lieu. Et donc, ils manifestaient avec des...
Mais ce qui est génial dans votre livre, je le disais tout à l'heure, c'est que par ce détour, vous arrivez à conclure qu'un aspirateur, c'est une machine à bourrer les urnes moléculaires.
C'est ça, c'est exactement ce que
les lecteurs qui vous auront lu comprendront le sens de cette formule, mais elle est indicatrice d'une façon originale de présenter ces questions de physique. Et vous êtes aussi original quand vous parlez des liquides, parce qu'à l'école on apprend que la matière existe sous trois formes, solide, liquide et gazeuse. On laisse de côté les plasmas.
Qui sont moins,
mais
sont moins
on a l'impression que les liquides ont la propriété intrinsèque d'être liquides. Or, ce n'est pas vrai. Et vous racontez notamment une histoire qui est arrivée à un cosmonaute. Alors, je ne sais pas s'il est allé dans l'espace. En tout cas, il a testé des combinaisons cosmonautes. Il s'appelle Jim LeBlanc. Et en 1966... Il lui est arrivé un petit pépin. Est-ce que vous pouvez nous le raconter?
Il était sur Terre, et heureusement pour lui, dans une cabine où on testait les combinaisons. Et autour de lui, donc, on a fait le vide. Et à un moment donné, il y a eu un problème avec sa combinaison. Il y a eu une fuite. Ou plutôt l'inverse d'une fuite. Et en tout cas, ça s'est, d'un seul coup, il s'est retrouvé au contact du vide. Je ne sais pas si on peut parler de contact
d'un
avec
vide,
le vide.
Absolu, mais quand même très, très, très
ça,
intense.
Ça, d'un vide très intense. Alors, heureusement, ça a été détecté tout de suite. Et,
en fait, il a trébuché et le câble qui alimentait sa combinaison en air s'est coupé.
C'est
donc
ça.
Il a été privé d'air pendant quelques secondes avant de tomber dans les pommes.
C'est ça. Et donc, tout de suite, l'équipe est intervenue et donc il a survécu à cet incident. Et quand il s'est réveillé après, quand on lui a demandé ce que ça lui avait fait, la première chose qu'il a répondu, là, il a dit la dernière sensation, la dernière chose dont je me souviens avant de tomber dans la pomme, c'est que j'ai senti ma salive bouillir sur ma langue. Et c'est assez surprenant de dire, tiens, c'est ça, c'est pas la première chose à laquelle on aurait pensé si on avait dû imaginer la sensation qu'a un être humain qui se retrouve dans le vide.
Si on reprend les diagrammes de phase qu'on apprend à l'école, quand on prend un liquide, si la pression baisse, autrement dit, si on s'approche du vide, oui, il se transforme en gaz.
C'est ça, voilà. En fait, moi, je me rappelle quand on apprenait ces états de la matière à l'école, on nous apprenait... Alors, au début, on ne parlait pas des diagrammes de phase, parce que justement, la pression, au début, quand on est à l'école, on ne nous en parle pas trop, on nous dit que c'est une question de température. Alors, si on prend l'eau, c'est de la glace en dessous de 0 degré, après, c'est de l'eau liquide entre 0 et 100, et puis après, ça devient de la vapeur.
C'est une question de température seulement.
Voilà, c'est ça. Mais ces données-là, elles sont à une température donnée précise, et selon la température... À une pression précise, oui, excusez-moi. Et selon la pression, eh bien, ces valeurs, elles vont changer. Et si on baisse la pression, eh bien, il y a un moment donné où l'intervalle de l'eau liquide entre la glace d'un côté et la vapeur de l'autre, il se réduit jusqu'au moment où il n'existe plus. Et quand on est soit dans le vide absolu ou même avec une atmosphère ou avec dans de l'air à très basse pression, eh bien, on passe directement du solide au gazeux sans passer par l'état liquide. Et ça, c'est intéressant parce que ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, l'eau liquide ne peut pas exister sans pression extérieure. Donc, ce n'est pas un état intrinsèque de la matière. Non, l'eau n'est pas liquide parce qu'elle est ce qu'elle est. Elle est liquide aussi parce qu'elle a la pression, elle a cette aide extérieure. En fait, un liquide, c'est un gaz qui aurait envie de devenir un gaz, qui aurait envie de s'échapper, mais qui est maintenu en un bloc par la pression extérieure qui appuie dessus.
Donc l'environnement compte dans la façon de considérer l'état de la matière.
Voilà, tout à fait.
Alors, votre livre, Michael Honnet, il s'appelle « L'équation de la chauve-souris ». Moi, je ne la connais pas, cette équation. Alors... Quand j'entends parler de chauve-souris, évidemment, je pense immédiatement à l'anagramme qui est « souche à virus ». Mais vous, c'est autre chose. Hein. Qu'est-ce que la chauve-souris évoque pour vous ? J'ai cru comprendre qu'elle avait posé des problèmes de classification aux yeux des naturalistes qui s'étaient intéressés à cet étrange animal.
Oui, c'est alors... Il n'y a pas à proprement parler une équation de la chauve-souris dont je parlerai dans le livre.
Donc le titre est trompeur.
Le titre est un peu trompeur. C'est un résumé, c'est un condensé pour ne pas faire un titre à l'ancienne avec 50 mots à l'intérieur. Mais effectivement, cette chauve-souris, je l'ai choisie comme animal totem d'une certaine manière du propos que j'avais envie de tenir dans ce livre. Parce que il s'agit de penser un peu contre nos premières intuitions, d'essayer de voir les choses différemment, de penser à l'envers. Et effectivement, cette chauve-souris a posé beaucoup de problèmes dans la compréhension de sa classification. C'est un animal qui fait rien comme les autres aussi, qui vit la tête en bas, qui vit la nuit, qui va voir entre guillemets avec ses oreilles, qui va se localiser.
Qui est assez moche aussi.
Oui, voilà. Ça dépend des espèces. Il faut non. Je suis plus pour classer les animaux selon leur mocheté. Et puis effectivement, c'est aussi un animal qui a été longtemps très mystérieux. C'est aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup de légendes qui se sont développées autour de cet animal. Je parle des vampires, toutes ces légendes, tout cet imaginaire qui a pu se créer. Et étymologiquement, la chauve-souris, alors il y a le mot souris qu'on entend parce que ça peut ressembler effectivement à une petite souris qui a des ailes. Et le mot chauve, alors c'est pas parce qu'ils n'ont pas de poils sur la tête, au contraire, mais c'est plus à rapprocher d'une chouette étymologiquement. C'est-à-dire que à une époque, c'était un peu considéré comme une sorte de chimère. C'est-à-dire que c'est un peu entre la chouette et la souris. C'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques communes avec les rapaces nocturnes, avec les chouettes. Le fait qu'ils vivent la nuit, le fait qu'ils volent, et puis des caractéristiques communes avec la souris et les mammifères, peut-être en général, d'ailleurs ce sont des mammifères. Et donc pendant très longtemps, l'usage a hésité entre est-ce qu'il faut le mettre d'un côté ou de l'autre. Et puis finalement, la science est arrivée petit à petit, a fait d'autres tentatives, dire est-ce qu'il faut le mettre avec les primates, il faut le mettre juste à côté des primates. Et puis à un moment donné, on s'est dit non, il va falloir créer une catégorie à part quand même, les chiroptères. Et pendant très longtemps, la chauve-souris s'est un peu baladée sur l'arbre phylogénétique en ne sachant pas trop où il fallait la mettre. Finalement, c'est ni une chouette, évidemment, et c'est finalement assez éloigné des souris. C'est pas du tout un rongeur.
Elle est plutôt proche des baleines et des rhinocéros.
C'est ça. En fait, sur l'arbre phylogénétique, c'est plus proche d'une baleine et d'un rhinocéros que d'une souris, ce qui est assez contre-intuitif aussi. Donc voilà, c'est un peu une illustration.
Donc ce que vous voulez montrer avec l'exemple de la chauve-souris, c'est qu'il y a beaucoup d'ambivalence dans la façon de penser les phénomènes. Et
c'est
beaucoup de les expliquer.
Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de moments où il faut penser contre la première idée qu'on a envie d'avoir et essayer de formaliser le...
Contre son cerveau, comme dirait Bachelard.
C'est ça.
Vous n'aimez pas que les aspirateurs, Michael Honnet. Vous aimez aussi les casseroles et les trucs qui y cuisent. Et en vous lisant, on découvre une passion qu'à ma connaissance, vous aviez cachée jusqu'à maintenant, pour les coquillettes. Vous les faites cuire, vous les regardez cuire.
Un peu trop longtemps.
Trop longtemps, plusieurs dizaines de minutes, ce qui fait qu'elles deviennent incomestibles. Qu'est-ce qui vous fascine dans les coquillettes qui cuisent ? Est-ce que c'est le fait que dès que la température de l'eau commence à monter, elles se décollent du fond ?
C'est ça.
Comme s'il y avait une antigravité qui se manifestait ?
Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est pas les coquillettes en elles-mêmes qui m'intéressent, mais ce qu'elles dévoilent. Quand on met de l'eau à bouillir, on a des courants qui vont se créer dans cette casserole d'eau qui boue. Et quand on met des coquillettes dans l'eau, alors au début, elles sont un peu trop denses, donc elles restent au fond. Et puis à un moment donné, elles s'imbibent d'eau et leur densité devient plus proche de celle de l'eau. Elles se mettent à virevolter à l'intérieur de la casserole et on les voit former des tourbillons. Et on voit en particulier se mettre en place un phénomène qu'on appelle un phénomène de convection, où on a les coquillettes qui vont remonter au centre de la casserole et puis tourner et redescendre sur les bords de la casserole. Et donc, qui tournent comme ça de plus ou moins vite. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est c'est pas forcément régulier, justement, quand on observe les coquillettes tourner.
Ouais, on sent que vous y avez passé des heures.
Ah oui, oui, non, puis j'ai refait l'expérience plusieurs fois. Dans le livre, je raconte comme si j'avais fait tout ça en une seule prise, pour abréger un peu l'anecdote.
Vous avez une casserole transparente?
Non, je regarde par-dessus. Puis après, j'ai testé avec différents feux.
Pareil, mais avant de parler de conviction, Michael Honnet, est-ce qu'on pourrait pas dire que quand une coquillette s'imbibe d'eau, son volume augmente? Oui. Et donc, ce qui l'a fait monter, c'est simplement la poussée d'Archimède?
Oui, 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 complètement. C'est la poussée d'Archimède. Alors, la poussée d'Archimède, c'est pareil. Vous parliez au début de l'émission des quatre lois fondamentales de la nature. Il n'y a pas la poussée d'Archimède dedans. Alors, où elle est la poussée d'Archimède dans ces... comment est-ce qu'on peut expliquer la poussée d'Archimède si ce n'est pas une loi fondamentale de la nature? C'est un peu comme l'aspiration. C'est une sorte d'illusion, en tout cas, c'est une force secondaire qui dérive d'une force plus fondamentale. Et cette force fondamentale, c'est la gravité. En réalité, si les coquillettes remontent, c'est pas parce qu'elles ont envie d'aller vers le haut, mais c'est parce que l'eau qui est autour d'elles a plus envie d'aller vers le bas. Parce qu'à un moment donné, quand on a un objet qui est plus léger que l'eau, eh bien, l'objet.
Et comme l'eau en descend, elle dit à la coquillette, dégage.
C'est ça.
Dégage voilà. Vers le haut.
Elle prend la place. Elle prend la place et donc la coquillette n'a pas le choix, n'a pas d'autre choix que de monter.
Et alors, vous disiez à propos de la convection que c'est un mouvement qui n'est pas régulier. Il y a des sortes de, on pourrait appeler ça, de sautes d'humeur.
Oui.
Dans la dynamique des coquillettes.
Déjà dans la vitesse, alors on peut les observer pendant très longtemps, les coquillettes qui tournent. Alors faut juste mettre le feu à la limite de... Faut pas que ça bouge trop fort parce que sinon ça devient n'importe quoi. Mais si on le met juste à la limite, on voit les coquillettes qui tournent et qui accélèrent de temps en temps, puis de temps en temps qui ralentissent. Et alors, moi de ce que j'ai observé, la plupart du temps elles tournent dans le même sens. Mais il arrive de temps en temps qu'on ait même des inversions du sens. Elles font demi-tour et d'un seul coup elles se mettent à descendre au milieu de la casserole et à remonter sur les bords. Alors Alors, on peut faire peut-être l'expérience dans différentes conditions. Moi, de ce que j'ai pu observer dans ma propre cuisine, c'est des phénomènes qui durent juste quelques secondes et qui reviennent vite dans l'autre sens. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on n'a pas quelque chose de bien régulier? Après tout, quand on s'est bien chauffé, ça devrait, si c'est chauffé de façon régulière, pourquoi est-ce qu'on n'a pas juste une certaine vitesse de convection qui se met en place avec les coquillettes qui tournent toujours à la même vitesse? Et ça encore, c'est une question qui amène assez loin. Et qu'ont étudié pas mal de savants depuis, à partir du 19e siècle, début du 20e siècle, et qui va avoir aussi beaucoup d'intérêt dans l'étude de la météo, parce que ces phénomènes de convection, pour moi, c'était plus facile de l'observer dans ma cuisine, mais quand on fait de la météo, on les observe aussi à l'échelle de l'atmosphère avec l'air qui monte, qui descend et qui va créer des cellules de convection comme ça. Et donc, pour les pionniers de la météorologie qui cherchaient à comprendre comment ça fonctionnait, eh bien, c'était important de comprendre ces sautes d'humeur que peuvent avoir les fluides par moment dans certaines conditions.
Vous le faites dans le livre, mais vous expliquez aussi, Michael Honnet, quelque chose dont on n'a pas toujours conscience quand on pense à la poussée d'Archimède, un corps qui monte, etc. Et on pense toujours à un corps étranger à l'eau qui est dans l'eau. Mais vous expliquez très bien que, en fait, l'eau s'applique à elle-même la poussée d'Archimède.
Oui, oui, c'est ça. En fait, toutes les gouttes d'eau qui sont dans un bassin, disons, elles ont toutes envie de tomber. Elles ont toutes envie de tomber, donc elles sont tous en train de batailler pour aller vers le bas parce qu'elles sont soumises à la gravité. Et elles sont toutes au coude à coude, les unes à côté des autres, et elles veulent chacune aller un peu plus bas. Mais comme il y a les autres, eh bien, elles se gênent et elles s'empêchent. Et finalement, dans un bassin d'eau où l'eau ne monte pas ni ne descend, c'est parce que l'eau ayant exactement la densité de l'eau, par définition, eh bien, la poussée d'Archimède est exactement égale à la gravité, et donc ça s'équilibre parfaitement.
Michael Honnet, je voudrais pas laisser penser que votre livre raconte toutes les aventures que vous vivez dans votre cuisine, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets que vous abordez, mais quand même...
Ça commence beaucoup dans le quotidien.
Par exemple, vous faites de la pâtisserie, vous avez donc un four dont la température telle qu'elle est indiquée est de 180 degrés. À côté, vous avez votre casserole remplie d'eau à 100 degrés pour vos coquillettes. Et si on vous demandait de mettre votre main dans l'un des deux appareils, vous choisiriez le four à 180 degrés, qui est plus chaud que la casserole. Mais quand vous le faites, vous êtes moins brûlé, en tout cas si vous ne laissez pas votre main trop longtemps, que si vous trempiez votre main dans la casserole. Comment ça s'explique que le plus chaud brûle moins que le plus froid ?
Là, pour le coup, c'est une question de conductivité thermique, c'est-à-dire de vitesse à laquelle la chaleur va se propager. Effectivement, ça, c'est quelque chose... Quand je me suis posé la question, c'est vrai que oui, l'eau, elle n'est qu'à 100 degrés, pourtant, elle paraît plus chaude que l'air du four. Comment ça se fait que cette intuition qu'on a au quotidien quand on est dans la cuisine ne se confirme pas sur un thermomètre? Et le fait est que l'eau est beaucoup plus dense, donc la température, en fait, c'est une moyenne d'agitation. Les petites particules d'eau de l'eau bouillante, elles sont agitées. Et quand on donne une certaine température, ça veut dire qu'en moyenne, elles ont une certaine agitation, c'est-à-dire une certaine vitesse à laquelle elles bougent les unes par rapport aux autres. Mais dans l'eau, eh bien, il y a beaucoup plus de molécules, dans l'eau liquide en tout cas, il y a beaucoup plus de molécules, puisque c'est un liquide, elles sont serrées les unes à côté des autres, que dans l'air du four. Donc finalement, quand je mets ma main dans le four, eh bien, les molécules vont être certes très agitées, et donc chacune d'entre elles va transmettre plus de chaleur à ma main qu'une molécule d'eau, qui est à 100 degrés. Mais comme elles sont moins nombreuses, eh bien, au total, ça va faire une quantité de chaleur qui va se transmettre, une hausse de la température de ma main qui va être moindre sur un même intervalle de temps que si je mets ma main directement dans l'eau, où effectivement ce n'est que 100 degrés. Mais il y en a tellement qui viennent frapper, il y a tellement de molécules qui vont venir réchauffer ma main, que ma main va passer à 100 degrés très rapidement dans l'eau, alors qu'il faudrait que je la laisse une bonne minute, même plus, pour qu'elle arrive à 180 degrés dans le four. Or, le temps de sortir un gratin, il suffit de 3 secondes et les mains n'ont pas vraiment le temps de chauffer.
Votre démarche est originale parce que, sur les exemples que vous venez de résumer, vous partez d'un phénomène qui vous intrigue, vous demandez comment ça marche, et par une sorte d'induction, vous retrouvez des lois physiques. Mais en fait, vous les retrouvez parce que vous les connaissez déjà.
Oui, c'est toujours un peu le...
Et en général, à l'école, on apprend les équations, et ensuite on les applique à des situations, et donc on fait le chemin inverse. Mais est-ce que vous pensez que, par une méthode qui est la vôtre, en partant des phénomènes et en jetant des hypothèses à leur sujet, est-ce qu'on pourrait vraiment retrouver les équations fondamentales ? Par exemple, avec votre histoire de casserole et de four, est-ce qu'on pourrait retrouver l'équation de la chaleur ?
Ah, on pourrait. Alors, est-ce qu'on pourrait retrouver l'équation de la chaleur juste avec une casserole et un four? Ça me semble un peu léger comme dispositif expérimental. Mais en tout cas, les questions qu'on va pouvoir se poser permettraient effectivement de mettre en place des expériences plus précises qui permettent d'avoir de meilleures données. Mais ensuite, l'équation de la chaleur, c'est un peu un mélange. C'est ce ping-pong permanent qui existe entre à la fois les sciences physiques et les expériences et les mathématiques qui vont apporter des outils et qui vont permettre de comprendre ce qui se passe. L'équation de la chaleur, c'est comment dans un milieu donné, là où il y a des endroits qui sont plus chauds que d'autres, la chaleur va se propager, à quelle vitesse. Et là, il y a besoin de toute une armada mathématique qui vient derrière, qui a été formidablement utilisée par Fourier au début du 19e siècle. Et ça, effectivement, si on part de rien et qu'on n'a pas les outils mathématiques... Alors, dans l'absolu, si on repart de zéro et qu'on est beaucoup et qu'on a des moyens et qu'on peut embaucher beaucoup de scientifiques pour faire plein d'expériences et recréer les mathématiques qui sont nécessaires, on peut y arriver. Mais c'est aussi pour ça qu'on s'appuie toujours sur la science qui a été faite avant nous. Et si juste on est tout seul dans notre cuisine, même avec d'autres processus, avec d'autres dispositifs expérimentaux, c'est très difficile de tout recréer, de refaire toute la science qui a été faite juste à partir d'observations quotidiennes.
Mais vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'il y a une efficacité opératoire des mathématiques en physique qui est spectaculaire. Certains disent même miraculeuse.
Oui,
il y a un grand physicien qui s'appelle Eugène Wigner qui a écrit un article en 1960 dans lequel il conclut en disant on n'a pas d'explication. D'où vient que les mathématiques sont le bon outil pour comprendre les phénomènes physiques? Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que ça vous semble miraculeux? Est-ce qu'on a de la chance? Ou est-ce que, finalement, la nature est, pour partie au moins, écrite en langage mathématique?
Alors, j'ai pas d'explication. Je pense que, comme beaucoup, je suis juste émerveillé par cette efficacité des mathématiques et par le fait qu'effectivement, quand on observe des phénomènes, eh bien, on retrouve... des mathématiques assez simples finalement. Alors, je sais que les mathématiques passent souvent pour être très, très, un peu compliquées, un peu voilà, pleines de détours. Mais finalement, quand on prend un peu de recul, ça pourrait être beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup de phénomènes qui s'expliquent avec quelques équations, quelques paramètres, alors que finalement, on pourrait avoir des phénomènes beaucoup plus complexes qui sont finalement inatteignables aux mathématiques, complètement inatteignables. Ou seulement de grossières approximations pourraient être obtenues. Et il y a quelque chose qui se produit, qui fait qu'effectivement, on a cette déraisonnable efficacité des mathématiques qui est face à nous, qui est devant nos yeux, où on se dit...
Mais... Déraisonnable, ça veut pas dire absurde, ça veut dire qu'on n'a pas, d'argument raisonnable permettant de l'expliquer, c'est ça que
voilà.
Vous voulez dire.
Hein. C'est ça. Et c'est quelque chose d'assez fabuleux. Alors après, il y a quand même des choses qui se comprennent. Par exemple, l'équation de la chaleur, c'est une équation qui est assez élégante sur la façon dont la chaleur se propage. Et elle peut s'expliquer, elle peut se déduire à partir d'hypothèses plus simples en se disant, bon, si on imagine, si on fait l'hypothèse, ce n'est pas le cas, mais que la chaleur est faite de petits grains de chaleur qui se déplacent un peu de manière aléatoire, qui vont aller un peu vers la gauche, un peu vers la droite, de manière uniforme. C'est une hypothèse qui peut être assez raisonnable.
Oui, mais Fourier a trouvé cette équation avec une mauvaise hypothèse sur la chaleur. Il pensait que c'était un corps particulier, le phlogistique.
Oui, c'est ça. Alors, c'est ça, c'est une mauvaise hypothèse, mais c'est une hypothèse qui finalement... si on oublie que c'est une particule, mais que finalement c'est plus un phénomène qui va se propager de particule en particule, son hypothèse de départ peut être sauvée d'une certaine manière. On peut continuer à garder le raisonnement en changeant l'hypothèse de départ.
Mais comment est-ce que vous interprétez le fait que la plupart des lois physiques, y compris celles de la physique classique qu'on apprend au lycée, sont des lois qui contredisent les phénomènes qu'elles expliquent? Par exemple, la chute des corps, vous en parlez dans le livre. Les corps de masses différentes tombent visiblement à des vitesses différentes. C'est ce que nous voyons. Et pourtant, la vraie loi, c'est que si ces corps tombaient dans le vide, ils tomberaient à la même vitesse. Et donc, c'est une loi qui contredit l'observation des phénomènes, ou du moins oblige à réinterpréter l'observation pour expliquer comment des lois qui la contredisent l'expliquent quand même. Voilà. Pareil pour le principe d'inertie. Il y a un corps qui n'est soumis à aucune force, un mouvement rectiligne uniforme. Bon, nous, on voit que quand la force s'arrête, le corps, en apparence, s'arrête. Quand Galilée nous dit, principe de relativité, le mouvement est comme rien. Quand on est en mouvement, tout se passe comme si on n'était pas en mouvement. On a envie de dire au contrôleur dans le train, si on n'a pas de billet, monsieur, si le mouvement est comme rien, je vois pas du tout pourquoi je paierais mon billet de train. Et comment vous expliquez ça, qui est cette difficulté à voir les lois physiques telles qu'elles sont dans le monde tel qu'il nous apparaît?
Parce que, en fait, les lois physiques, enfin, le monde tel qu'il nous apparaît, c'est toujours une somme de différentes lois physiques. C'est-à-dire qu'il y a jamais, c'est rare de se retrouver juste face à un phénomène pur d'une certaine manière qui est libéré de tout parasite. Sur la chute des corps, si ça ne tombe pas, si on ne voit pas les objets tomber pareil que selon la loi qu'ils auraient dans le vide, c'est parce qu'il y a les frottements de l'air, parce qu'il y a ces parasites, en quelque sorte, par rapport à cette loi fondamentale de la chute des corps. Et donc c'est aussi ça la démarche qu'on essaye d'avoir quand on essaye de comprendre les choses, c'est de décortiquer, c'est de se dire... Quelle est la chose fondamentale? Qu'est-ce qui est de l'ordre de la perturbation, qui d'ailleurs peut être aussi très intéressante? C'est-à-dire que la perturbation en elle-même peut devenir le sujet d'étude et devenir l'objet central qu'on a envie d'observer. Mais si on veut observer quelque chose de particulier, quelle est la chose fondamentale et quelle est la perturbation dont il va falloir s'abstraire? Et pour ça, les mathématiques sont aussi très utiles parce qu'on va pouvoir faire un modèle. C'est-à-dire
qu'on est capable de voir, entre guillemets, des choses que nos sens ne perçoivent pas, et puis aussi de voir en quoi notre esprit, qui veut les interpréter, se trompe et peut se corriger.
Oui, avec des expériences de pensée, on peut s'auto-corriger et se dire, mon intuition me disait ça, mais si je fais cette expérience de pensée, ça n'a pas l'air de fonctionner comme ça. Ou si je creuse, si j'essaye de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, il y a un paradoxe, il y a quelque chose de contradictoire qui vient se créer. Donc, comment on peut expliquer ça? Et c'est à ce moment-là où il faut faire le tri entre ce qu'on a envie de comprendre et dégager les différents... séparer le problème en différents petits problèmes et de se dire, ah, là, on a une loi fondamentale sur la chute des corps et puis on a... Ce frottement de l'air qui va s'ajouter, et puis on a cet autre phénomène qui va s'ajouter, les vibrations du train qui roule sur des rails qui ne sont pas tout à fait en rectiligne, des choses comme ça.
Je l'ai dit, je trouve votre livre très, très original, et en le lisant, je ne me doutais pas qu'à la fin, vous aborderiez la physique quantique, les quantas, parce que ça, c'est quand même le gros truc.
C'est ça, c'est l'objectif final.
Et c'est là que vous avez, à mon avis, la démarche la plus originale, parce que d'habitude, quand on parle de physique quantique, on parle de l'histoire, les paradoxes, le corps noir, l'effet photoélectrique, etc. Et vous abordez la question avec un cheminement plus pédestre, plus logique, en partant de phénomène que vous avez choisi, isolé, et puis vous êtes remonté vers le formalisme quantique en expliquant presque l'équation de Schrödinger avec les mains.
Rapidement.
Disons, on la trouve dans une page. Alors, on n'a que quelques minutes, mais comment est-ce que, devant des élèves de lycée, par exemple, vous aborderiez cette question des quantas, de la révolution quantique en général? Qu'est-ce qu'elle change?
Ce qui me semble intéressant aussi, c'est de créer c'est-à-dire si la physique quantique arrive à ce moment-là dans le livre, c'est aussi parce qu'il y a cette progression et qu'il y a différentes choses qui arrivent. La partie d'avant, je parle de l'évolution des sons et des ondes parce que on a cette question de dualité, en tout cas d'ambiguïté.
Oui, je conseille votre livre aux musiciens. Il faut absolument qu'ils lisent votre livre.
Effectivement, je parle beaucoup des notes de musique et de la perplexité dans laquelle ça me plonge, moi qui n'ai pas du tout l'oreille musicale.
C'est l'équivalent des coquillettes pour vous, les notes de musique.
Voilà, c'est ça. je ne comprends pas, et le fait que je ne comprenne pas m'a fait me poser pas mal de questions. Mais oui, en tout cas, alors l'expérience principale dont je pars pour aborder ces quelques notions, ça ne traite pas de toute la physique quantique, mais d'un angle particulier, c'est l'expérience des deux fentes, où on projette des électrons sur deux fentes et il y a certains électrons qui vont donc on a un panneau avec deux fentes à l'intérieur, et il y a certains électrons qui vont juste percuter le panneau et ne vont pas passer de l'autre côté. Et il y en a certains qui vont passer à travers les fentes et qui vont se retrouver de l'autre côté où ils vont être détectés. Et on peut s'attendre spontanément à ce que ça fasse deux tas d'électrons, ceux qui sont passés par la fente de gauche et ceux qui sont passés par la fente de droite. Et au lieu de ça, eh bien, on observe quelque chose avec plusieurs tas, 5 ou 7 tas selon les expériences.
Et puis, s'il n'y a qu'une fente ouverte, les électrons peuvent arriver à certains endroits. Et si on ouvre les deux fentes, ils n'y arrivent plus.
C'est bizarre.
Voilà. Alors, il y a deux chemins possibles qui leur sont proposés. Et ben, ils y vont moins que quand il n'y en a qu'un seul.
Exactement. Et il se trouve que, c'est aussi pour ça que je parle du son avant et de la propagation du son. C'est que cette figure-là, cette figure avec différentes bandes, une figure d'interférence, comme on appelle ça, elle est bien connue quand on étudie le son et quand on étudie d'une manière générale les phénomènes ondulatoires. Donc là, ça nous dit, alors l'électron a l'air de se comporter comme une onde. Pourtant, on a quand même pas mal d'autres indices qui nous disent qu'il se comporte comme une particule. Et alors, comment est-ce qu'on gère ce paradoxe, ce fait que il se comporte dans certains contextes comme une particule, dans d'autres contextes... Les électrons sont des chauves-souris. Sont-ils des chouettes ou sont-ils des souris, ou sont-ils ni l'un ni l'autre? Et finalement, autre chose, il faut créer une autre catégorie. Et finalement... créer un domaine d'étude particulier pour comprendre comment il fonctionne. Et puis c'est comme ça que...
Mais est-ce que vous avez l'impression d'être suivi, parce que votre pédagogie, ça consiste finalement à partir de questionnements, et même d'étonnements, de paradoxes, avec l'idée que le paradoxe, c'est finalement le combustible de l'intellect, comme dirait un certain Kierkegaard. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce sont des méthodes qui sont très utilisées dans la pédagogie traditionnelle, en cours de physique par exemple?
Alors ça, je sais pas assez. J'ai pas assez de connaissances de comment ça se passe dans les cours de physique. En tout cas, moi, c'est comme ça que c'est ça qui me rend curieux. C'est-à-dire tout ce que je raconte dans le livre, c'est toujours des choses qui moi-même m'ont étonné au départ. Et c'est toutes les questions sont pas des questions artificielles que je pose juste pour arriver à un but. C'est des questions que je me suis posées. Et effectivement, ces paradoxes mentaux, c'est ce fait de réaliser par moment qu'un truc qu'on pensait comprendre, on ne le comprend pas, de réaliser qu'il y a deux choses qu'on pensait mais qui en fait sont contradictoires l'une avec l'autre, et que finalement il va falloir trier, il va falloir faire un choix ou trouver une voie au milieu. C'est quelque chose qui me guide.
Merci Michael Honnet d'être venu à la conversation scientifique.
Merci.
Je recommande très très chaleureusement la lecture de votre livre L'équation de la chauve-souris. Il y a un sous-titre: de la poussée d'Archimède à la physique quantique. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Grégory Wallon et à la réalisation Luc Jean Reynaud.